France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Et après la revue de presse internationale, on va parler du tourisme à l'international. À quoi vont bien pouvoir ressembler ces vacances d'été? Les touristes étrangers pourraient manquer à l'appel et les Français se concentrer sur l'Hexagone. Comment concilier contraintes sanitaires et besoin de liberté, de légèreté? Le modèle du tourisme de masse peut-il céder la place à celui du tourisme durable? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Maria Gravary-Barbas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de géographie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice de l'équipe interdisciplinaire de recherche sur le tourisme. Nous sommes également en compagnie de Jean-Didier Urbain. Bonjour. Vous êtes anthropologue spécialiste des mobilités et du voyage et vous avez notamment publié une histoire érotique du voyage aux éditions Payot Maria Gravary Barbas. De toute évidence, c'est une crise grave pour le secteur. Est-ce la première grande crise pour ce secteur?
Ce n'est pas la première grande crise, il y en a eu d'autres, mais c'est sans doute la crise qui a le plus tétanisé les secteurs du tourisme. On pense tous au 11 septembre. Et là, effectivement, les répercussions pour le tourisme ont été également très importantes. Mais ce n'est pas comparable avec la situation actuelle qui est très incertaine. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est derrière nous. C'est une situation que nous vivons actuellement et que nous allons vivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est cette incertitude de l'avenir qui fait que cette crise du tourisme est sans doute la plus difficile à gérer. Cette difficulté de projection fait que on ne sait pas du tout à quoi ressemblera l'été 2021. On sait plus ou moins à quoi ressemblera l'été 2020, oui. Mais la question essentielle, c'est comment effectivement le tourisme, en tant que phénomène social, en tant que phénomène économique, sera reprofilé dans les années à venir. Et c'est la question que se pose. Est-ce que on parlera l'année prochaine du tourisme tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu au cours des dernières décennies, ce qu'on pourrait appeler business as usual, ou est-ce que ce sera également l'occasion des changements fondamentaux du paradigme touristique?
Justement, lorsque l'on songe, par exemple, au 11 septembre qui a mis un coup d'arrêt momentané, combien de temps a-t-il fallu pour que la situation revienne à la normale? Parce que, alors, bien entendu, ça n'était pas un virus. Là, on est parfaitement dans l'ombre, en tout cas on est dans le brouillard, pour savoir quand est-ce que ce virus cessera et quand nous pourrons à nouveau voyager. Nous n'aurons plus peur de voyager, mais finalement le 11 septembre c'était un peu la même chose avec la crainte du tourisme, la crainte du terrorisme. Combien de temps a-t-il fallu pour que la situation revienne à la normale?
Le tourisme jusqu'à maintenant a démontré une étonnante résilience. On peut effectivement parler du 11 septembre, mais nous pouvons aussi parler de plusieurs attentats terroristes. Et Dieu sait combien il y en a eu au cours des dernières années dans différentes régions du monde. Le tourisme a été très résilient. Il est reparti, et parfois il est reparti à la hausse, quelques mois ou quelques années après ces événements. La différence essentielle maintenant, c'est cette incertitude de l'avenir et aussi le fait que ce n'est pas un événement localisé dans un endroit, une ville, une région, mais vraiment un événement planétaire où tout est lié à tout et où donc les mobilités internationales sont tellement conditionnées les unes par rapport aux autres. Et c'est sans doute c'est ce qui fait que cette crise est inédite.
En France, le tourisme représente pratiquement 8% du PIB, si on compare le poids de ce secteur avec d'autres pays. Alors ça peut aller jusqu'à 20% pour la Croatie. Est-ce que malgré tout, certains pays vont plus souffrir que d'autres? Est-ce que le marché intérieur français peut suffire, par exemple, à combler une partie, en tout cas, des dépenses touristiques qui sont généralement réalisées chaque année dans l'Hexagone?
Oui, clairement, d'autres pays vont souffrir beaucoup plus que la France. Je pense là à des pays comme l'Égypte, par exemple, qui a énormément souffert de l'après-révolution 2010 et qui est un pays qui, effectivement, a construit une bonne partie de son économie nationale sur le tourisme. L'Égypte est un pays qui, clairement, attendait l'été 2020 pour pouvoir repartir, reconstruire son tourisme, Vous savez, c'est un pays qui a très lourdement investi dans des grandes infrastructures touristiques. Il y a ces musées, donc les grands musées nationaux de l'Égypte qui étaient censés ouvrir cet été près des pyramides de Gizeh. Et donc, effectivement, l'Égypte est un exemple d'un pays qui sera très touché. La Thaïlande, encore un pays qui a construit son économie en grande partie sur le tourisme, 20% de son PIB, qui correspond effectivement à un pourcentage tout à fait considérable, 20% de son PIB vient du tourisme, le Vietnam. Et ce qui est paradoxal, enfin, ce qui est vraiment pas paradoxal, mais très remarquable dans cette crise, c'est comment elle a restructuré globalement les mobilités dans le monde. La Mecque qui ferme, d'une certaine façon, les Jeux olympiques qui sont reportés. Les Jeux olympiques, c'est quand même 40 millions de visiteurs qui étaient attendus au Japon. Donc, c'est effectivement une méga crise qui concerne des mobilités qui se comptent par millions.
Mais alors, de manière tout à fait étonnante, en tout cas cela m'a étonné, Maria Gravary-Barbas, la France, que l'on considère comme étant spécialisée dans le tourisme, n'a que 8% de son PIB. Alors c'est beaucoup, mais c'est moins que l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, la Chine, la Thaïlande. Donc ça signifie finalement que la situation est peut-être légèrement moins grave qu'on l'imaginait à cet égard.
Oui, enfin moins de 8%, les PIB, enfin le tourisme correspond à
7,4%
7,4,
d'après
voilà,
les
du PIB
chiffres.
national. Et c'est vrai que même quand on compare avec des pays européens, on voit que la France se situe bien en deçà, par exemple, de la Croatie. Vous évoquiez la Croatie tout à l'heure, la Croatie c'est quand même 20%
Mais je vois par
au-dessous
exemple
du
Royaume-Uni
PIB.
9%. Comment expliquer par exemple que le Royaume-Uni, qui est évidemment une destination prisée, mais comment expliquer que le Royaume-Uni ait 9% de son PIB consacré au tourisme, tandis que la France n'est, je le rappelle, qu'à 7,4%?
7,4%, c'est quand même un pourcentage tout à fait considérable. Après, c'est la dépense qu'on met dans ce pourcentage touristique, puisque vous savez que les statistiques du tourisme sont tout à fait discutables. On ne parle pas que de tourisme d'agrément. On parle des mobilités qui peuvent relever aussi des mobilités d'affaires, du voyage d'affaires. Donc, ça peut expliquer éventuellement certaines différences entre les pays. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que la France un PIB qui est tout à fait enfin, un pourcentage tout à fait considérable qui est dû au tourisme, mais vous le disiez, effectivement, elle peut envisager un été non pas serein, mais moins dramatique que d'autres pays. Non seulement parce qu'elle peut compter sur son tourisme national, mais aussi, et je dirais surtout, parce qu'elle peut compter, comme d'autres pays européens, sur le tourisme européen. Il ne faut pas oublier que pour la France, le tourisme européen est majoritaire. On pourrait dire grosso modo 87 millions de touristes internationaux qui viennent en France, presque 68 millions viennent des pays européens. Et ce tourisme européen représente la très grande proportion des recettes touristiques, pratiquement 67-68%
Ah
des
oui?
recettes touristiques viennent des touristes européens. Les frontières européennes, bon, vous le savez, elles ont rouvert depuis maintenant une quinzaine de jours. On ne sait pas, on est à l'abri d'aucune évolution et on ne sait pas si effectivement les frontières resteront ouvertes. On craint tous cette deuxième vague et tant qu'il n'y a pas de vaccin, évidemment, il n'y a aucune certitude.
Il y a aussi la
Mais.
crainte des personnes que l'on a du
Pardon?
mal, il y a aussi la crainte des
Bien
personnes,
sûr,
leur
bien sûr.
réticence à voyager, que l'on a du mal à mesurer, Maria
Bien
Gravary-Barbas.
sûr, bien sûr, évidemment. Mais c'est vrai que même si plusieurs personnes choisiront ce qu'on qualifie parfois d'un tourisme de proximité, ce que nous avons tous testé pendant cette période où il a fallu se limiter à un rayon des 5 km, donc effectivement, il y a eu aussi une émergence des destinations, on pourrait dire, proches. Oui, on redécouvre ce tourisme de proximité, on redécouvre les destinations nationales, et pas que en France, mais aussi pour les autres pays européens. Mais je pense que nous pouvons aussi compter sur un tourisme européen cet été. Après, il y a des situations qui sont plus complexes, celles des ressortissants britanniques, qui correspondent à un pourcentage considérable du nombre donc de touristes européens. Et là, c'est vrai que les situations sont plus complexes. Cette question de la quatorzaine volontaire, je ne sais pas comment cela va évoluer, mais c'est vrai que ça pose une question. Mais de façon générale, la France et les pays européens ont cette chance d'être dans ces contextes régionaux et européens qui changent considérablement la donne par rapport à la situation dans laquelle se trouvent d'autres pays touristiques dans d'autres régions du monde où effectivement cette structuration régionale n'existe pas.
Justement, Jean-Didier Urbain, lorsque l'on songe au tourisme, on songe aux polémiques récentes qu'il y a eu, par exemple, sur ce qu'on appelle le surtourisme. Bref, le touriste qui avait plutôt une image sympathique jadis est devenu de plus en plus le synonyme de pollueur, ou en tout cas regardé avec une certaine suspicion. Est-ce que cette crise peut changer durablement les choses, selon vous ?
Durablement, certainement, en tout cas, repositionner certaines politiques locales, parce qu'on incrimine souvent le touriste, mais je veux dire que le surtourisme, c'est quand même d'abord la responsabilité de ceux qui l'encouragent, de politiques d'attraction, plus ou moins concentrées, voire concentrationnaires. Je pense à des villes comme Dubrovnik, des villes comme Barcelone, des villes comme Amsterdam, qui ont développé une politique du tourisme qui n'est quand même pas forcément très responsable, et qui, en contre-coup, effectivement, affrontent un surtourisme qu'elles ne contrôlent pas, parce qu'elles ont voulu attirer. Si vous voulez, le cas type, c'est quand même véritablement Amsterdam, je crois, où finalement on a eu une campagne de promotion autour des produits pas chers, entre autres les stupéfiants, enfin, etc., la bière pas chère, qui avait venir une clientèle anglaise finalement assez turbulente, et qui a bon fait monter à 15 millions la fréquentation de la ville pour une population de 850 000 habitants. Donc là, on crée des disproportions qui sont par définition absolument invivables, d'autant plus que c'est un touriste qui n'est pas spécifiquement saisonnier, celui-là. Il serait parti sur l'année, ce qui pourrait être a priori un avantage. En fait, ça devient une sorte de harcèlement sociologique, je dirais, de l'indigène par le visiteur. Et ça, ce n'est quand même pas pour autant en s'en prenant au visiteur qu'on va résoudre le problème. C'est un peu comme les grands navires à Venise, s'ils passent si près de la place Saint-Marc, c'est pas à cause du touriste, c'est parce que les autorités locales ont autorisé ce type de passage. Donc il ne faut pas se tromper ici dans ce problème. Effectivement, le statut de bouc émissaire du touriste est quelque chose de pratiquement aussi vieil que l'histoire du tourisme. Ça a toujours été l'intrus, éternel intrus, qu'il faut chasser tout en reconnaissant ses avantages économiques, etc.
Jean-Didier Urbain, je dois un peu prendre effectivement la défense du touriste. Aujourd'hui, alors qu'il va manquer ce touriste, on a entendu par exemple les Vénitiens dire que l'économie locale était dans une situation scabreuse du fait de son absence.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut peut-être, si on doit repenser le tourisme et ses excès, ses démesures, ses irresponsabilités, la crise ici est bien faite. Ça veut dire que est bien tombée, si je puis dire, entre guillemets, dans la mesure où, par exemple, un cas comme Venise réalise au fond et ses dépendances. Et pourquoi elle s'est mise en situation de dépendance vis-à-vis du tourisme, par rapport aussi à une politique locale qui doit beaucoup nouveau centre de gravité de la région qui est Mestre, son industrialisation qui a vidé Venise, et ce n'est pas le touriste qui a chassé, si vous voulez, le Vénitien. Au contraire, à la limite, c'est un petit peu comme croire que c'est le baigneur qui a chassé le pêcheur sur le bord de mer. C'est pas vrai du tout. C'est l'industrialisation de la pêche qui a fait disparaître le pêcheur, et heureusement le baigneur est arrivé pour prendre le relais, je dirais, de l'économie locale. Donc il ne faut pas inverser les rôles, on a tendance à le faire. Là, je pense que cette crise, cette pandémie, a mis des villes surbouquées en situation complètement antipodique par rapport à ce qu'elles étaient. C'est-à-dire, d'un seul coup, plus de visiteurs, plus rien, en 3D, à la limite, les vœux les plus secrets, enfin, exaucés, et ça tourne au cauchemar. Donc, je pense que c'est bien de part et d'autre, aussi bien pour le touriste, qui comprend qu'au fond, son voyage requiert un certain nombre de conditions pour être viable, mais aussi les pays récepteurs qui doivent s'interroger sur qu'est-ce que le développement touristique par rapport à un homme qui a envie de voyager, qui s'appelle le touriste, qui a ses rêves, qui va où d'une certaine manière, on l'invite à aller, hein, il va quand même, on lui dit d'aller, et qui, donc, de fait, se plierait sans nul doute à des réformes de gestion, des flux, d'aménagement des territoires, qui sans doute passerait volontiers d'un paradigme actuel en tourisme qui est quand même la politique des attractions avec ces engorgements, ces effets d'entonnoir que cela provoque, au profit sans aucun doute d'un tourisme de la dispersion, d'une irrigation raisonnée dans l'espace et dans le temps, hein, des flux touristiques. Bon, et ça, je pense que la pandémie peut avoir servi à cela, parce que effectivement, 3 mois avant que ne soit même pas, parce que je dis quelques semaines avant que le confinement ne soit décrété, on parlait encore du surtourisme, de l'overtourisme.
Et donc effectivement, les choses peuvent changer rapidement à cet égard. Maria Gravary-Barbas, est-ce que les politiques nationales menées donc vis-à-vis des touristes vont changer? Est-ce qu'il va y avoir des réorientations? Est-ce que ça remet en cause, par exemple, le modèle du tourisme de masse, selon vous?
C'est ce qu'on doit espérer. Je pense qu'on est actuellement dans une situation où on a compris que le laisser-faire n'est plus possible. D'ailleurs, on est dans une logique où les États interviennent massivement. Le Premier ministre considère qu'effectivement, le tourisme est une priorité nationale. Il y a de l'argent national qui sera investi dans le tourisme pour un plan de relance du tourisme. Les États européens procèdent de la même façon. Il y a aussi des plans d'aide européens. Du moment où il y a de l'argent national ou européen qui est investi dans le tourisme, on peut s'attendre à ce qu'il y ait également de nouvelles règles. C'est une occasion rare qui ne va pas se représenter, en tout cas il faut espérer qu'elle ne va pas se représenter, pour réglementer certaines choses. Sans être cynique, je pense qu'il ne faut jamais laisser passer une bonne crise. C'est vraiment le moment de revoir les choses de façon beaucoup plus globale. C'est aussi le moment
Pardonnez-moi, je vous coupe, oui. Maria Gravary-Barbas, et expliquez-moi comment on va s'y prendre concrètement, parce que, donc encore une fois, le tourisme est une industrie, on a vu son importance, et on sait qu'il y a probablement du surtourisme, qu'il y a une pollution liée au tourisme, mais il y a aussi beaucoup d'emplois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas créer de la misère dans certains lieux, de la pauvreté dans d'autres, en réorientant le tourisme, c'est-à-dire en diminuant le nombre de touristes?
Il ne s'agit pas forcément de diminuer le nombre de touristes, le tourisme. Il s'agit de les dessiner, de les planifier un peu mieux, de sortir un peu de cette logique du laisser-faire. Mais c'est un peu ce qui va se faire. Par exemple, lorsque l'État aide Air France, il met aussi ses règles. Il demande, par exemple, à ce qu'il y ait une réduction du nombre de vols entre les destinations où il peut avoir une alternative ferroviaire. En tout cas pour des distances de moins de 2 heures, 2 heures et demie. Il demande à ce qu'il y ait une réduction des émissions en CO2. Il demande à ce qu'il y ait une intégration des carburants alternatifs. Donc du moment où il y a de l'argent public qui est investi, il y a aussi des règles qui peuvent éventuellement, en tout cas il faut l'espérer, amener à prendre en considération globalement les impacts du tourisme. En général, cette économie touristique s'est développée dans plusieurs endroits du monde de façon un peu sauvage. Les prix ont été cassés parce qu'en fait, le coût du tourisme n'a jamais intégré les coûts environnementaux. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Là, maintenant, il faut prendre en compte les vrais coûts environnementaux, faire en sorte à ce que ces prix qui sont artificiellement bas parce qu'il n'intègre pas les coûts réels socio-environnementaux,
oui, ce qu'on appelle,
et qu'il soit, en fait, restructuré.
Ce qu'on appelle les externalités en économie, absolument. Il faudrait donc prendre en compte les nuisances et la pollution liée à ce tourisme. On vous retrouve dans une quinzaine de minutes, Maria Gravary-Barbas. Vous êtes professeure de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Jean-Didier Urbain, anthropologue. Vous avez publié une histoire érotique du voyage aux éditions Payot.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner.
Drôle de fin pour une année scolaire en ce 3 juillet 2020. Certes, les vacances commencent ce soir, mais où et comment pourrons-nous barboter? Probablement en France d'abord. Nous sommes en compagnie de Maria Gravary-Barbas, professeure de géographie à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et Jean-Didier Urbain, anthropologue. Vous avez notamment publié Jean-Didier Urbain, une histoire érotique du voyage aux éditions Payot. Jean-Didier Urbain, comment cela va se dérouler? Comment ces vacances vont-elles se dérouler en France cette année? Est-ce qu'il va y avoir certaines régions qui vont en profiter plus que d'autres?
Écoutez, c'est fort probable, dans la mesure où déjà en temps normal, l'été est le moment où le Français passe moins les frontières. Ça reste sur les décombres de ce qu'on appelait jadis les grandes vacances, un moment privilégié de retrouvailles familiales, amicales. C'est souvent des vacances très tribales, très communautaires, qui se font souvent dans les maisons familiales, les résidences secondaires, les campings au bord de la mer, etc. Donc on peut imaginer que cet été sera au fond une version peut-être intensifiée de ce qui se passait habituellement. De ce point de vue, l'épidémie n'a pas été une rupture, mais plutôt un catalyseur. Donc on va accélérer des pratiques, on va augmenter des pratiques déjà établies pour cette période de l'année.
Par exemple.
Effectivement, se retrouver en famille et se retrouver sans doute dans des espaces relativement clos, isolés, que ce soit, qui peuvent être des ermitages nombreux, j'entends bien, parce que le camping, c'est un peu une communauté, c'est le plaisir d'être dans un huis clos, j'ai fait quelques enquêtes là-dessus, c'est assez étonnant. Vous avez des Français qui rentrent, je dirais, le 1er août dans un camping et qui en sortent 25 jours plus tard sans avoir été voir ailleurs, etc. C'est le plaisir de l'entre-soi, c'est presque une croisière à terre, si vous voulez. C'est un moment privilégié de l'année où on retisse des liens sociaux, des liens amicaux, des liens conjugaux, des liens amoureux, des liens qui ont été plus ou moins défaits durant le reste de l'année et à des impacts majeurs de l'épidémie, ça a été précisément ce manque de lien. Le confinement a imposé un manque de lien, on est carencé en termes de liens sociaux, affectifs et amicaux, plus un manque d'espace. Donc les deux choses qui vont se passer très probablement, dans la mesure où en plus, c'est 80 à 90% de Français qui restent sur le territoire national pendant l'été habituellement, ceux qui pouvaient déroger à cette règle sont privés, je dirais, de destination. Ce matin encore, on a rappelé avec le Maroc est toujours fermé, or c'était un des grands lieux d'échappée. La Tunisie vient juste de rouvrir ses frontières, donc il est possible quand même que des irréductibles partent en direction effectivement de ce pays-là. Mais Maria Gravary-Barbas évoquait effectivement l'Égypte fortement handicapée par ce phénomène. Donc il va y avoir une rétraction, non seulement européenne, mais je pense nationale. Et l'espace rural risque d'être le grand bénéficiaire de cette affaire pour absorber, au fond, les non-partants vers l'étranger, les non-partants vers la Grèce, peut-être, mais la Grèce va sans doute quand même recevoir quelques visiteurs, la Croatie aussi.
Donc, oui, ce sont des pays qui
Il va y avoir plus de monde, et surtout, c'est l'espace rural qui représente 80% du territoire national qui risque d'en bénéficier. Un Parisien qui prend le métro aujourd'hui a pu remarquer le nombre de publicités en faveur des régions, que ce soit la Sologne, la Bourgogne, le Loiret, qui se sont développés.
Eh oui, chaque région essaye de tirer son épingle du jeu. Maria Gravary-Barbas, justement, est-ce que cela pourrait varier en fonction des régions? Qu'est-ce qui va se passer, selon vous, dans l'Hexagone cet été?
Cette crise ne va pas effacer totalement la géographie touristique française. Les régions touristiques seront toujours des régions qui vont attirer et vers lesquels les touristes nationaux et européens auront sans doute tendance à se diriger. Les régions comme PACA, la Corse, bien entendu, restent toujours des régions qui sont touristiquement, on va dire, désirables. Ce qu'on attend aussi, c'est qu'il y ait une certaine réinvention des territoires plus proches qui pourraient sans doute permettre d'absorber en fait ces tourismes national. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de réinventer le tourisme et je pense qu'on n'a jamais autant parlé de slow tourism, de tourisme lent d'un tourisme qui, en fait, implique de prendre le temps de redécouvrir des territoires qui ne sont pas touristifiés, de prendre le temps pour y aller, d'essayer des moyens de transport alternatifs, plus doux. Je pense que c'est là où il y aurait des choses qui pourraient se réinventer. Donc, pas un effacement total de ce que nous connaissons aujourd'hui, mais la possibilité de certains territoires de profiter, et encore une fois, c'est pas cynique ce que j'ai dit, de profiter de cette crise pour dessiner une nouvelle offre touristique.
Mais vous pensez, pardonnez-moi, je vous coupe, oui. Maria Gravary-Barbas, oui. Vous pensez que ces évolutions, elles vont véritablement avoir lieu? Ce ne sont pas seulement des slogans, parce que ça fait longtemps aussi qu'on évoque un certain nombre de tendances, mais qui se concrétisent peu dans la réalité. Le slow tourisme, le fait de voir les choses autrement, ça n'empêche pas une forme de tourisme de masse de continuer à perdurer, pour des raisons d'ailleurs qu'on comprend bien.
Oui, bien sûr. Non, mais le tourisme de masse, je pense que s'il n'y a pas vraiment une réflexion structurante de la part des États sur ce qu'est le tourisme et comment on peut véritablement les réguler aujourd'hui en sortant des laissez-faire qui est sans doute déplorable mais accepté, je pense qu'effectivement on risque de rester sur de vœux pieux. Mmh. Or, il y a aujourd'hui une possibilité pour revoir les choses différemment. Et il ne faut pas le laisser passer.
Merci beaucoup, Maria Gravary-Barbas. Vous êtes professeure de géographie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et merci à Jean-Didier Urbain, Une histoire érotique du voyage, c'est aux éditions Payot.